correu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence ce soir autour d'un livre proposé par Michel. Alors il y a José toujours à la technique, on accueille Morane aujourd'hui et moi-même. Le livre dont on va essayer de vous parler ce soir s'appelle La Terre plate, généalogie d'une idée fausse. Il s'agit d'un livre de Violaine Giacomoto Ciara et de Sylvie Noni. Alors il a été édité aux Belles Lettres en 2021 et il vient de sortir en poche. Et c'est la version qu'on a ce soir, hein, la version poche. Violaine Giacomoto Ciara est historienne. Sylvie Noni, elle, est chercheuse en sciences physiques, professeur des universités. Et ce texte, Michel, tu vas nous en dire un peu plus, part de l'idée fausse, selon laquelle, pendant très longtemps, notamment au Moyen-Âge, on aurait cru que la Terre était plate. Et en fait, ces deux éminentes spécialistes d'histoire et de physique démontrent en quelque sorte ce mythe d'une idée historiquement fausse, selon laquelle la Terre aurait été conçue comme plate au Moyen-Âge. Donc c'est évidemment une forme d'histoire assez... amusante et astucieuse, puisqu'il s'agit de faire l'histoire d'une idée fausse, en l'occurrence, et donc de déconstruire en fait une certaine représentation du Moyen-Âge obscurantiste, religieux, et de montrer que en fait au Moyen-Âge on n'était pas plus idiot qu'on ne l'est aujourd'hui, et que cette idée d'une rotondité de la Terre, mais je m'avance peut-être, était déjà dans les tuyaux depuis bien longtemps, et notamment au Moyen-Âge. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur le propos du livre, et en fait, quel est du coup pourquoi effectivement il a retenu ton attention ce texte qui s'appelle donc La Terre plate.
L'histoire d'une erreur, c'est toujours intéressant, enfin de mon point de vue. Et puis, si tu fais en plus l'histoire d'une erreur sur des croyances supposées fausses du passé, je trouve que ça rajoute un petit twist assez rigolo. Et puis en plus, dans le cadre de mes fonctions fonctionnantes, je me suis quand même retrouvé souvent face à des individus qui partageaient cette croyance, et en particulier la croyance que Galilée aurait lutté contre l'Église pour imposer l'idée de la sphéricité terrestre.
Oui, c'est classique. Et
ça, c'est en quelque sorte, c'est le premier étage de la fusée du livre. C'est là qu'elle part, parce que c'est une erreur qui, sans trop de surprise, est partagée par un de nos anciens ministres, un des anciens ministres de l'éducation les plus éminents, à savoir Claude Allègre, qui justement va dire « Ah là là, avant on croyait que la Terre était plate, heureusement que Galilée est venu. »
Et
Marlène Schiappa, effectivement, qui est citée. Tu as raison, Morane, qui est tout à fait citée. Mais alors, il n'y a pas qu'elle. Et donc, c'est une espèce de petit florilège au début du bouquin. Alors, présentation générale du bouquin, c'est un livre qui est très très érudit, mais qui, comment dire, elle cite un nombre de savants totalement oubliés depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, jusqu'au 19e siècle plutôt, en passant par le Moyen Âge. Qui est assez impressionnante, mais en même temps, ça se lit plutôt bien. C'est-à-dire que elles ont fait un travail de vulgarisation qui est plutôt réussi. Mais on voit que derrière, il y a des bases très très solides en termes d'histoire scientifique. Donc, c'est assez plaisant. Moi, j'ai trouvé ça assez plaisant à lire, même si après, on pourra se poser certaines questions sur les ambitions du bouquin, qui sont peut-être un peu questionnables, mais bon, c'était un peu l'idée. Et puis surtout, voilà, comment est-ce que, finalement, on a pu croire que les gens au Moyen-Âge croyaient que la Terre est ronde.
Était plate, pardon.
Et alors, le truc, c'est que c'est une histoire qu'on connaît tous, pas tous, non, peut-être, mais qu'on connaît un certain nombre à connaître, c'est que, ou plutôt le mythe qu'elle retrace, c'est l'idée que, globalement, les Grecs auraient eu connaissance de la sphéricité de notre planète, mais que cette connaissance aurait été oubliée lors de ces âges obscurs, et que tout le monde, à partir d'un certain point, aurait cru que la Terre était plate. Alors ça pose tout un tas de questions d'un point de vue historique, c'est-à-dire qui est tout le monde, qui croyait que la Terre était plate,
comment on a pu oublier,
etc. Et donc c'est l'histoire qu'elles vont retracer est assez longue, parce qu'elles partent finalement de l'Antiquité, et elles vont partir de Platon, Aristote, Ératosthène et quelques autres, qui justement très très tôt commencent à dire que non, la Terre est ronde.
Et comme
beaucoup de gens
ne devraient pas croire,
comme Marlène Schiappa,
ce que je croyais savoir, c'est qu'effectivement sous l'Antiquité, on avait observé que assez tôt finalement il y avait eu cette idée que la Terre était ronde, notamment à partir d'observations un peu à l'œil nu, qui étaient faites par des peuples vivant en bord de mer. Et qui, en fait, voyant par exemple un bateau à voile s'éloigner sur la ligne d'horizon, constatait, si effectivement les conditions météo étaient bonnes, que le mât s'enfonçait progressivement sous la ligne d'horizon, ce qui, du coup, effectivement, était l'indice que y avait une espèce d'inclinaison, une rotondité de la Terre, et qu'elle pouvait pas être plate, parce que sinon elle se serait pas enfoncée de cette manière-là. Alors, est-ce que j'ai cru bon, ou est-ce que j'ai...
T'as cru bon.
En fait,
t'avais plusieurs types de preuves. T'avais des preuves de type effectivement empirique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on observe. Par exemple, on observe que lors des éclipses lunaires que, ou même la simple, comment dire, quand la Lune n'est pas pleine, qu'il y a la forme de la Terre qui se découpe dessus. Et donc, très très vite, ça, les gens se sont dit, c'est que la Terre doit être ronde. Ensuite, tu as eu effectivement les observations de ce type à l'horizon.
Les étoiles.
Les étoiles, le fait que plus tu es à l'ouest, alors j'ai oublié le détail.
C'est plutôt du nord au sud.
C'est plutôt du nord au sud.
Quand on bouge du nord au sud, la configuration du ciel étoilé.
Oui, aussi. Change. Mais je crois que tu avais aussi une question de hauteur. C'est-à-dire, le soleil va se lever à différentes heures en fonction de ta position, justement, d'est en ouest. Et donc,
là-dessus. Oui, du coup, ça ne peut pas se lever sur la même surface. Quoi.
C'est ça. Ouais. Et après, tu as eu des gens, quand même. Donc, tu as eu ces observations empiriques qui ont été faites effectivement très très tôt. Et après, tu as eu des gens qui étaient bougrement, comment dire, malins. Enfin, c'est assez impressionnant de lire ça. Comment, par exemple, Ératosthène, qui paraît-il était mauvais philosophe, je ne sais pas, parce que. Enfin, elles disent qu'il y a trois types de preuves. Tu as les philosophes. Qui vont essayer de. Aristote, c'est en raison aussi de son système en physique. C'est-à-dire avec l'idée qu'il y a un haut, un bas, que les corps lourds sont attirés par le bas, que les corps légers sont attirés par le haut. Et il arrive à la conclusion, mais pour des motifs peut-être essentiellement de cohérence de son propre système, à la conclusion que la Terre est ronde. Mais bon, Platon, son maître, le disait déjà. Donc tu as ça, mais tu as aussi effectivement les astronomes, qu'on ne confondait pas forcément avec les astrologues, déjà à l'époque, et Eratosthène qui a été, je crois, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, et aussi qui était mathématicien, et la rumeur dit qu'il n'était pas très très bon philosophe, mais en revanche, c'est lui qui a essayé d'imaginer des méthodes pour calculer la circonférence de la Terre, et il a obtenu un résultat qui était d'un ordre de grandeur assez exact. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le bon résultat, mais il avait un résultat qui n'était pas aberrant et qui, à quelques centaines de kilomètres près, était bon. Et c'était une méthode qui, à base de, je crois, il y a eu plusieurs trucs.
Le bâton, non ?
Le bâton planté dans le sol. Avec, tu mesures l'ombre du bâton planté dans le sol à une différente latitude.
Oui.
C'est-à-dire que si par exemple tu plantes ton bâton, alors c'est pas ce qu'a fait Eratosthène parce que je pense pas qu'il avait connaissance de l'équateur, mais si tu plantais ton bâton à l'équateur, à midi, ton bâton n'a pas d'ombre. Alors que si tu le plantes. Le fameux planter du bâton. Et donc tu as eu tout un tas comme ça de. Et après tu as aussi les explorateurs. C'est-à-dire que tu avais pas seulement donc, les philosophes, tu avais les astronomes, mais tu avais aussi les explorateurs et qui, par exemple, sont allés jusqu'en Islande. Et qui ont essayé, en quelque sorte, de tracer une espèce de géographie et de voir jusqu'où est-ce que vivaient les êtres humains et comment est-ce qu'ils pouvaient vivre, etc.
Donc les platistes ratatinaient depuis au moins 2500 ans.
Alors c'est compliqué, parce qu'elles disent, elles racontent, donc Violaine Giacomotto Cara et Sylvie Noni racontent qu'en réalité on a assez peu de traces des autres conceptions de la forme de la Terre. Il semble que... des gens comme Xénophane ou Thalès ou encore Aristote se moque d'eux en disant qu'ils avaient des conceptions justement fausses de la forme de la Terre, mais Anaxagore aussi ferait partie des partisans de Pratchett, de la Terre disque. Et globalement, ils ont l'idée que la Terre est plate, qu'elle demeure au repos, mais on a peu de textes d'eux. Donc, après, il y aura d'autres conceptions de la forme de la Terre qui pourront surgir, mais une Terre qui n'est pas ronde, mais c'est plus tardif, en fait.
Et donc ça se transmet après au Moyen-Âge ou quoi?
Alors ça, c'est très compliqué, parce que, elles vont, comment dire, montrer comment l'idée de la Terre ronde s'enracine et comment elle est, acceptée de plus en plus par l'ensemble du monde savant. Chez les gréco-romains. Mais ensuite, tu as l'effondrement de l'Empire romain, et là, les choses deviennent compliquées. Parce que, on sait que les savoirs ont beaucoup circulé autour de la Méditerranée, d'accord ? Mais on ne sait pas toujours comment concrètement. Et donc, elles vont aussi se pencher beaucoup sur la circulation des sources. Qui pouvait savoir quoi, à quel moment, en fonction des bouquins qui circulaient. Et donc, elles ont prêté pas mal d'attention à des choses qui sont parfois sous-estimées par les historiens des idées, comme les manuels d'enseignement. C'est-à-dire, qu'est-ce que lisaient les gens effectivement à l'époque? Et c'était pas forcément Ératosthène qui était très technique et complexe pour l'immense majorité des gens, comme il le serait sans doute encore aujourd'hui. Et donc c'était plutôt des ouvrages qui allaient être, comment dire, des ouvrages d'enseignement, de vulgarisation, qui étaient écrits par des profs qui n'inventaient pas forcément de nouvelles théories, mais qui allaient citer des auteurs dont les textes ont ensuite disparu. Et tout d'un comme Macrobe, donc des gens dont on voit parfois passer les noms, mais qu'on a quand même massivement oublié. Théon de Smyrne, par exemple, je ne savais même pas qu'il avait existé. Macrobe, différentes personnes. Et donc, ça va, là, à partir de là, il y a un modèle qui va commencer à s'établir, qui est assez intéressant, parce qu'il va poser des questions ensuite aux auteurs chrétiens, qui sont, on imagine que la Terre donc, est ronde. Je te vois venir, Morane. Et ils s'imaginent que donc, les deux extrémités sont congelées. Frigida. Et il y aurait juste au-dessus de ces extrémités congelées, il y aurait deux aires tempérées qui seraient elles-mêmes séparées par un centre, torride. Et donc ça va poser très très vite la question des antipodes, les fameux antipodes de ceux qui vivraient en bas. Mais ça c'est important parce que en fait, la question, il y a deux questions ici. La question de la forme de la Terre.
Du coup,
on est aux alentours. L'Empire romain, c'est 4e siècle. En gros, plutôt fin de l'Empire romain.
Fin de l'Empire romain d'Occident.
C'est en quelque sorte les connaissances qui circulent dans l'Empire romain finissant.
Et du coup, la question, c'est quoi? C'est la question des antipodes. C'est la question, c'est comment ils tiennent la tête en bas?
Non, c'est qu'il y a deux questions. En fait, c'est la question 1, quelle forme a la Terre? Et 2, est-ce qu'il y a des gens qui vivent de l'autre côté?
Ok.
Et en fait, c'est deux questions qui vont être souvent confondues par la suite. Okay. Où on va se dire, un tel a nié qu'il existe des antipodes, des gens qui vivent la tête en bas, et ça veut donc dire qu'il a nié que la Terre était sphérique.
Okay.
Ce qui n'est pas du tout, d'un point de vue logiquement, ça ne marche pas en fait. Mais c'est une histoire qui va souvent se répéter, ça.
Et le débat sur les antipodes date du 5e siècle alors ?
Peut-être alors ça, je ne sais plus, parce que ça va être repris ensuite. Il semble que Platon ait cru que la Terre était beaucoup plus peuplée, mais il avait une mesure de la Terre qui était fausse, qui était beaucoup trop grande. Et il pensait qu'il y avait des êtres humains un peu partout. Et après, sur les antipodes, le débat va ressurgir plus tard. En fait, je suis pas sûr qu'il se pose la question, en fait, avant un certain temps. Et c'est plutôt des gens qui vont, dans un premier temps, ceux qui sont cités dans le bouquin, c'est des gens qui vont contester la sphéricité de la planète, qui vont dire que si la Terre est ronde, alors il doit y avoir des antipodes, or il ne peut pas y avoir d'antipodes. Donc peut-être que la Terre n'est pas ronde, mais ça c'est une minorité. Donc la question des antipodes, ouais, à ma connaissance, mais elle n'est pas posée tout de suite, en tout cas. Et donc, on arrive au nœud du problème, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est-à-dire, les savoirs circulent dans l'Empire romain, ils circulent essentiellement en latin, d'accord, avec beaucoup d'ouvrages d'enseignement qui, donc, quelle image de la Terre à ce moment-là on a, à partir d'un modèle un peu issu de Ptolémée, c'est l'idée que la Terre est sphérique, qu'elle est immobile, qu'elle est au centre de l'univers, d'accord, que l'univers est fini, que le ciel est liquide, en quelque sorte, on a d'abord la Lune qui tourne autour de la Terre, puis le Soleil, puis les autres planètes. En fait, arrivé à ce moment-là de l'histoire, c'est ce modèle-là qui compte, et c'est en particulier l'immobilité de la planète, de nos planètes, et sa centralité qui vont faire l'objet d'un dogme par la suite.
Et là, on est à...
Là, je te dis 4e siècle après Jésus-Christ, okay. Environ, c'est à ce moment-là.
Okay.
Et c'est à partir de là aussi qu'apparaissent que l'Empire romain va se convertir au christianisme, que tu as tout un tas de choses qui se produisent, et que les pères de l'Église, c'est des théologiens, des philosophes, parfois des savants, parfois simplement des rhéteurs, des gens qui maîtrisent l'art de la parole et qui essaient de convaincre tout un tas de gens, vont commencer à s'intéresser aux questions astronomiques. Et c'est là, d'une certaine manière, que Violaine Giacomotto Cara et Sylvie Noni vont situer un peu le début du problème, parce qu'il y a En fait, les débuts de l'Église chrétienne sont très complexes. Il y a énormément de débats sur la nature du Christ, sur la nature, était-il humain, était-il divin, avait-il qu'une seule nature ou avait-il deux natures. Bref, t'as tout un tas de débats.
Une question compliquée. Hein.
Des questions compliquées, évidemment. Ouais. Et donc, comment dire, et t'as tout un tas de débats, mais t'as tout un tas de positions aussi qui vont être très très variées. Et en particulier, par exemple, t'as un certain Lactance, qui a été fait père de l'Église assez tardivement, et qui, lui, justement, va critiquer l'idée des antipodes. Et l'idée que, donc, il y aurait des êtres humains avec la tête en bas de l'autre côté du globe, et que, par conséquent, la Terre serait ronde, et donc, lui, il va dire, non, la Terre est sans doute plate. Et donc, c'est à peu près ça, c'est 305 après Jésus-Christ. Mais, en fait, il est assez minoritaire.
Et Lactance, c'est un religieux, alors
Oui. C'est un rhéteur, et ensuite, il a écrit « Les institutions divines », et ça a été ça cité à partir de la fin du XVIIIe siècle, donc beaucoup plus tard. Ça a été vu comme un des ouvrages fondamentaux de l'Église. Alors qu'en réalité, donc Lactance, il écrit des choses. Ceux qui tiennent qu'il y a des antipodes tiennent-ils un sentiment raisonnable? Y a-t-il quelqu'un assez extravagant pour se persuader qu'il y ait des hommes qui aient les pieds en haut et la tête en bas? Que tout ce qui est couché en ce pays-ci soit suspendu en celui-là? Que les herbes et les arbres y croissent en descendant et que la pluie et la grêle y tombent en montant? Faut-il s'étonner que l'on ait mis les jardins suspendus de Babylone au nombre des merveilles de la nature, puisque les philosophes suspendent aussi des mers, des villes et des montagnes? Alors,
efficace,
c'est un rhéteur. Et donc, évidemment, il peut mettre les rieurs de son côté, mais si vous avez bien suivi les dates, et Jean-Mathias, je sais que tu suis bien les dates,
c'est ton truc.
Tu es très très exact. Ouais. Globalement, en fait, Lactance écrit ça à une époque où le consensus est que la Terre est sphérique. Et donc, ce que soulignent les deux historiennes, enfin l'historienne et la physicienne, c'est qu'à l'époque, en fait, Lactance n'était pas tout considéré comme légitime, y compris à l'intérieur de l'Église, pour tenir ce genre de propos. Il est assez, comment dire, et le titre, par exemple, de père de l'Église ne lui attribuait que de façon très tardive, en 1770. C'est pas quelqu'un qui était très très influent. Donc elles vont aussi replacer, en quelque sorte, ce qui n'a pas toujours été le cas, certaines opinions de certains pères de l'Église dans le contexte où ces opinions ont été émises et à la crédibilité qui leur était accordée alors.
Le système l'a fait peur en même temps.
Et donc... oui, José, effectivement, il y a eu un complot contre le pauvre Lactance.
Ouais.
Et donc, justement, elle précise que ce sont, nous le verrons, les auteurs des 18e et 19e siècles qui ont, à la suite de Voltaire, qui est un peu méchant dans ce livre, ériger la prose de Lactance en emblème de la littérature patristique. Patristique, donc, c'est les pères de l'Église.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est au 18e qu'on va, en fait, construire une espèce de faux consensus autour de l'idée que la Terre serait plate,
oui,
pour marquer la différence entre les temps modernes et puis
c'est un peu l'idée.
D'accord, donc c'est un procès d'intention anti-obscurantiste.
Ou anti-anti.
Et anti-religieux.
Ou anti-anti-obscurantiste.
Anti-obscurantiste.
Ah oui, mais tu vois, pour pour réhabiliter l'idée que que beaucoup de gens connaissaient la véritable forme de la Terre avant Galilée, tu vois, c'est en gros l'idée que c'était tous des obscurantistes, des anti-obscurantistes. Non, pas tous. Donc là, t'es anti-obscurantiste.
D'accord.
Alors.
J'assume.
J'assume.
Et Voltaire soutient la thèse que cette connaissance s'est perdue.
Voltaire en partie, oui. Alors ça, on va y arriver peut-être plus tard et après une pause, parce que comme José nous a sélectionné des musiques formidables, et puis là, on arrive, on était pile à Lactance, et à l'abominable Voltaire.
C'est le bon moment. Alors, première pause musicale.
I am a cliché. Yeah.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa deuxième partie, émission consacrée ce soir à un ouvrage de Violaine Giacomotto Ciara et de Sylvie Noni qui s'appelle « La Terre plate, généalogie d'une idée fausse ». Alors, c'est Michel qui nous présente ce livre ce soir et qui nous a expliqué comment, déjà depuis la haute antiquité, notamment chez les Grecs, la plupart des gens avaient compris et soutenaient...
En tout cas, la plupart des lettrés, des scientifiques, etc. Pour les autres, on ne sait pas. Mais...
Soutenaient déjà l'idée que la Terre était ronde contre un préjugé anti-obscurantiste, souvent cultivé notamment par un certain nombre d'auteurs des Lumières, qui soutient que le Moyen-Âge et l'Antiquité auraient cru d'un seul bloc que la Terre était plate.
Alors non, c'est pas ça. Que l'Antiquité aurait découvert la
et que le Moyen-Âge l'aurait oublié. Et que le Moyen-Âge l'aurait oublié. Jusqu'aux découvertes héroïques de Galilée.
Et de Christophe Colomb, qui est aussi un héros méconnu.
Colomb, qui est aussi un héros moderne, évidemment. Tu étais en train de nous expliquer, Michel, comment justement Violaine Giacomotto Ciara et Sylvie Noni expliquent que finalement l'idée que la Terre serait plate est une idée qui est extrêmement minoritaire. Au moment où le christianisme devient religion d'État dans l'Empire romain, et puis au moment de la chute de l'Empire romain, et comment en fait les auteurs qui sont mis en avant justement pour justifier cette idée que le Moyen-Âge aurait soutenu que la Terre était plate sont en fait des auteurs relativement marginaux parmi les auteurs religieux, parmi les pères de l'Église et parmi les lettrés tout court, d'une certaine manière. Alors, on a été à l'Église d'Antioche, tu disais, là on a effectivement une tentative pour...
L'Église d'Antioche, mais parce que bon, il y a aussi eu un passage, mais j'avais souligné ça déjà avant, que Saint Augustin, lui, refuse l'idée que des êtres humains puissent vivre de l'autre côté de la Terre. Et lui, c'est parce que son idée, c'est qu'il aurait fallu que le Christ naisse deux fois pour pouvoir... il refuse l'idée qu'en fait, l'autre moitié de la planète soit abandonnée de Dieu. Uh-huh. Il ne refuse pas l'idée qu'elle est sphérique. Uh-huh. Simplement, il refuse l'idée qu'il y ait des êtres humains qui vivent de l'autre côté. Parce que sinon, si vivent de l'autre côté, ils sont séparés de nous par une zone inhabitable trop chaude. Et par conséquent, ils n'ont pas pu connaître le message du Christ, et donc ça ne marche pas. Donc, là, c'est un motif théologique, pas du tout un motif astronomique, du tout.
Et tu l'as dit, effectivement, la principale objection de ceux qui soutiennent que la Terre est plate, leur principal argument, c'est cet argument des antipodes. C'est-à-dire, effectivement, comment, si la Terre est plate, peut-elle être peuplée, que si la Terre est ronde, comment peut-elle être peuplée en bas, par des gens qui auraient la tête en bas, effectivement. Ça. Et donc, il y a une espèce de blocage logique, en fait.
Saint Augustin, lui, il admet la sphéricité de la Terre, mais son argument est théologique et plus du tout physique. Mais malgré tout, plus tard, au 18e, il sera un peu mis dans le même sac que Lactance parmi les gens qui, niant l'existence des antipodes, nient en fait l'existence de la sphéricité. Ni le fait de la sphéricité. Et donc, ça, c'est intéressant. Et alors, effectivement, il y a eu une petite église qui a souvent été aussi utilisée dans ce procès fait au Moyen-Âge, qui était l'église d'Antioche. Mais ce que remarquent donc Violaine Giacomotto Ciara et Sylvie Noni, c'est que finalement, donc vous avez des gens comme Jean Chrysostome, donc d'autres figures en quelque sorte importantes dans l'histoire de l'Église. Mais ce qu'elle remarque, c'est que ces gens qui défendaient l'idée que la Terre est plate, en fait, n'ont pas pu être lus au Moyen Âge pour tout un tas de raisons. Un, ils écrivaient en grec. Ou en syriaque, éventuellement. Et donc, c'est une langue qui n'était pas du tout connue au Moyen-Âge. On lisait le latin, mais pas le grec. Deuxièmement, c'était des hérétiques qui ont été condamnés par les autorités majoritaires de l'Église. C'était des nestoriens.
Alors, on a bien fait.
Oui, bien sûr, c'est clair. Alors, les nestoriens... Ouais. Alors, ça, c'est un des petits défauts de l'ouvrage. Parfois, ça manque un peu de pédagogie, c'est-à-dire que, par exemple, elles n'expliquent pas qui sont les nestoriens. C'est quand même dommage.
Où est Antioche,
ce genre de choses. Et si, je crois qu'elles le disent. Mais c'est l'Église d'Orient, donc. Et globalement... Bon, les Nestoriens, c'était des gens qui croyaient que le Christ n'était pas une nature divine. Il semble qu'ils aient beaucoup inspiré les premiers musulmans. puisque en Arabie Saoudite, quand on creuse, on retrouve beaucoup d'églises nestoriennes. Et donc, comme c'était des hérétiques, de ce côté-là, finalement, ils ont été condamnés par le concile d'Éphèse et celui de Constantinople, très très tôt, 5e et 6e siècle. Ce qui fait que leurs thèses n'ont pas pu du tout, en plus du grec, se répandre plus tard au Moyen-Âge. Mais ils ont été utilisés ensuite au XVIIIe siècle dans la formation du mythe de « Ah, ils croyaient tous que la Terre est plate ». Donc, et je trouve que c'est assez intéressant parce que, pour le coup, on replace vraiment les choses dans une espèce de contexte historique qui a gagné la lutte à l'époque, qui a pu faire répandre ses idées ou pas. Et là-dessus, ça, c'est quand même bien. Et ensuite, quelque chose qui a été longtemps oublié, mais qui a pourtant une très très grande importance, c'est l'essor des sciences dans le monde, disons, arabo-musulman. Arabo-musulman parce qu'ils parlaient pour beaucoup arabe et c'était sous domination politique musulmane, même si dans le tas, il y avait aussi des juifs et des chrétiens. En quelque sorte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, quand les musulmans se sont étendus autour du bassin méditerranéen, ils sont tombés sur. Ah oui, c'est vrai. Quand ils ont colonisé le bassin méditerranéen, mais ils sont tombés sur les textes grecs. Et il y a eu un grand mouvement de traduction des textes grecs en arabe. Et donc, ils ont repris énormément de connaissances qui étaient chez les Grecs, beaucoup plus dans un premier temps que le Haut Moyen-Âge, qui lui avait... le Haut Moyen-Âge est le premier, hein, d'accord ?
Oui.
Ouais. qui lui, par contre, n'avait plus que des bribes, en réalité, de la philosophie grecque.
Notamment, c'est le fameux truc sur les textes d'Aristote, effectivement, oui. qui était complètement
omité
et parcellaire à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, alors qu'effectivement, du côté arabo-musulman, ils étaient complets, ils avaient tout traduit. Ouais.
Et en plus...
Avant les croisades, avant qu'on les redécouvre, avant les croisades.
C'est ça.
Ouais.
Et de plus, il y avait aussi autre chose, c'est que...
c'est vrai qu'on ne parle jamais assez, souvent, je trouve, des racines grecques de l'islam, en fait.
Oui, c'est clair. C'est-à-dire que la thèse du choc des civilisations prendrait un coup.
Oui.
Mais ah, ils avaient lu les Grecs aussi. Ah, eux aussi, ils débattaient.
Et des racines musulmanes du thomisme.
Mais clairement, du thomisme. Mais oui, médiéval. Parce que justement, elle raconte aussi, donc Violet Giacometto Carrà et Sivinoni, que par exemple, un philosophe arabe, médecin, théologien, très très connu, Averroès, certains des livres qu'Averroès a écrits sur Aristote, des commentaires d'Aristote, ont été traduits en latin vers le XIIIe siècle et en fait étaient lus et commentés à leur tour dans les universités européennes. Et ce qui s'est passé, ce qu'elle signale, elle, c'est que, en quelque sorte, les Européens avaient connaissance à l'époque, donc dans le Haut Moyen-Âge, avaient connaissance des thèses sur la sphéricité de la Terre, mais ils en avaient une connaissance qui avait été vulgarisée et ils avaient perdu tout l'aspect mathématique et technique de ces connaissances. Donc ils savaient, mais ils n'arrivaient plus trop à expliquer pourquoi, en gros. Et ils avaient perdu, ils étaient incapables de comprendre Ératosthène. Enfin, il y avait des problèmes du côté technique. Alors que, justement, les Arabes, eux, ont conservé le côté mathématique, ils ont essayé d'inventer de nouvelles méthodes pour calculer la circonférence de la Terre. Donc ils avaient conservé tout le côté technique. Et ce côté technique est revenu grâce finalement à leur travail. Parce que, alors le truc rigolo, c'est que donc ils avaient traduit les textes des Grecs en arabe. Et ensuite, quand les Européens ont à leur tour recolonisé les terres que les Arabes avaient colonisées, qui avaient été aussi colonisées par les Romains, c'est compliqué.
Tu parles des croisades.
Ouais. cette colonisation sur la colonisation de la colonisation.
Oui, oui. On suit.
Vous suivez ?
C'est bon.
Mais en fait, les textes, on ne les a pas traduits. On les a pas traduits du grec, on les a traduits de l'arabe vers
de
le
l'arabe
latin.
De l'arabe traduit du grec.
Ouais. Oui, vers le latin. Uh-huh. Et avec souvent des textes très parcellaires, mais c'est là qu'en fait, c'est vers le 12e, 13e siècle, c'est là que l'Occident redécouvre les textes grecs. Parce qu'on avait, je crois qu'on avait un bout du Timée de Platon.
Grâce aux Arabes.
Ouais. On avait un bout du tissé qui était un livre de d'astronomie de Platon, mais qui était comment dire mélangé avec tout un tas d'autres textes qui n'avaient rien à voir, qui avaient été rajoutés complètement apocryphes. Mais à partir justement du moment où des croisades, on va redécouvrir carrément la philosophie grecque et l'astronomie grecque.
Et donc, et du coup, la thèse dominante de la sphéricité.
Exactement. Okay. Mais aussi la thèse dominante de l'immobilité.
Oui.
L'immobilité de la Terre et de sa centralité dans le système. Et ça, c'est tout le système ptoléméen.
Oui. On est d'accord, oui. C'est quand même deux idées qui sont distinctes, ça.
Oui.
C'est-à-dire que tu as une idée, l'idée sur est-ce que la Terre est sphérique ou plate, ça c'est un premier débat.
Oui.
Et après, tu as la question de la position de la Terre dans le cosmos, dans l'univers.
Mais de son mouvement ou de son immobilité.
Et de son mouvement ou de son immobilité, mais les deux questions sont indépendantes.
Oui, mais elles ont souvent été confondues. Oui,
par Claude Allègre.
Ouais.
Et Marlène Schiappa.
Voilà. Mais en fait, c'est deux questions qui
n'ont rien à voir. Mais un peu comme la question des antipodes et de la sphéricité. C'est-à-dire, tu as deux questions qui sont logiquement distinctes.
Bah oui et non, parce que ça, effectivement, tant que tu n'as pas de conception sur la gravité,
tu peux confondre.
C'est un vrai bug.
C'est vrai. Mais bon, après, ils avaient plusieurs thèses sur la position de la Terre dans l'univers.
Ouais.
Est-ce qu'elle tenait sur un pilier? Est-ce qu'elle tenait sur une tortue? Quatre chameaux elles-mêmes posées sur une tortue. Ce genre de choses. Non, ça c'est pour la Terre plate. Donc, il y avait comme ça, il y avait différentes thèses. Où est-ce qu'elle a été posée et qu'elle bougeait pas, mais posée sur rien?
Ouais.
Donc, tu avais pas mal de thèses qui circulaient, parce que ça les questionnait quand même.
Là, on est au Moyen-Âge, tu dis. Hein.
Mais déjà, depuis l'Antiquité, ils questionnaient.
Et du coup, au Moyen-Âge, alors qui soutient que la Terre est plate?
Personne.
Il y a encore des gens. Personne, ah oui, d'accord.
Pas grand monde, personne, en fait, personne. Au Moyen-Âge. Ouais. Globalement, tout le monde est d'accord, ça fait partie. Et justement, là, il y a un travail d'analyse des sources et aussi d'analyse de quels sont les ouvrages qui circulent et dans quel milieu ils circulent, étant donné que le milieu lettré, elles disent très très bien que, en fait, sur ce que pensait le paysan de la Creuse ou ce que pensait, ça on n'en sait absolument rien.
Oui, parce qu'elles analysent quasiment que les manuels, en fait.
C'est ça, les manuels et les ouvrages savants. Donc, et elles disent, le truc, c'est qu'on peut pas trop savoir ce que pensait le vulgaire, ni même s'il se posait la question.
Donc,
mais
le on, c'est les savants, en fait.
C'est ça, le on, c'est les savants. Mais elle questionne le truc, elle le montre bien. Elles disent, voilà, nous, ce qu'on peut savoir à partir des documents dont on dispose. Et ensuite, elles élargissent un petit peu, finalement, la thèse, en montrant que certains livres qui défendaient l'idée de la sphéricité de la Terre ont été très très tôt, font partie des incunables, ont été très très tôt imprimés. En gros, dès qu'on maîtrise un peu l'imprimerie avec des caractères métalliques qui permet d'imprimer plus d'ouvrages, ils sont publiés parce que et elles disent s'ils sont publiés à ce moment-là aussitôt, c'est qu'on pense que ça va bien se vendre parce que c'est déjà connu. Effectivement, c'est des manuels, c'est beaucoup de vulgarisation. Et à partir de là, elles prennent 2-3 ouvrages qui ont eu du succès pendant quelque chose comme 500 ans. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que à ce moment-là, en quelque sorte, il n'y a pas de progrès scientifique. On reste sur des thèses ptoléméennes, où du moins il n'y a pas de progrès scientifique décisif ou quelque chose qui fasse vraiment, bouger la Terre sur elle-même et autour du Soleil avant longtemps. Mais
jusqu'à
Copernic et Galilée.
Ouais, ouais.
Mais donc il y a une certaine c'est un peu statique en gros puisque c'est à peu près les mêmes manuels qui circulent pendant 200-300 ans. Mais ils circulent leur hypothèse c'est qu'ils circulent de façon très très étendue. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont dépasser le milieu des savants de l'université et qui vont se répandre en gros, dans l'aristocratie, la bourgeoisie cultivée, les gens qui ont accès à certaines connaissances, que ce soit des commerçants, des voyageurs, elles ont l'air de penser, c'est-à-dire que plus tu peux montrer que c'est une connaissance qui est répandue dans différentes classes de la société, plus il y a de chances que finalement ce soit un lieu commun. C'est ce qu'elles essaient de montrer, que même dans certains bouquins. La question de la forme de la Terre n'est pas discutée. On part du principe qu'elle est sphérique, point. Et donc ça, c'est le Moyen-Âge, en gros, jusqu'à la Renaissance, il n'y a pas de débat sur la forme de la Terre.
Et elles reviennent aussi sur le fait que, potentiellement, la population était plus alphabétisée que ce qu'on pensait aussi.
Non, ça, elles ne l'évoquent pas. Ce qu'elles évoquent, c'est que la circulation des connaissances est en fait plus complexe qu'on imagine, parce que, par exemple, il dit, bon, il y avait beaucoup d'aristocrates qui n'étaient pas alphabétisés, mais ils payaient des gens pour leur lire les choses. Et il est tout à fait possible que, effectivement, les connaissances aient aussi circulé comme ça, avec des lecteurs, des lectrices, des gens qui lisaient les textes à d'autres. Parce que les êtres humains parlent, quoi. Et ils s'intéressent, ils sont quand même relativement curieux. Donc il est tout à fait possible que c'est des choses qui étaient beaucoup plus répandues qu'on imagine. Mais bon, elles sont prudentes. Elles ont aucune preuve de ça, c'est que des suppositions. Donc elles s'arrêtent en quelque sorte. Voilà, tel livre a été édité à tel moment, ça voulait dire qu'il se vendait bien. Et ça voulait sans doute dire qu'il se lisait, qu'il se vendait en dehors des cercles savants.
Okay. Est-ce qu'on est d'accord que du coup, la dernière partie du livre va être consacrée à l'Église, la manière dont on a calomnié en fait cette période d'obscurantisme moyenâgeux? C'est peut-être le moment de faire une deuxième pause musicale. Alors, on est d'accord là-dessus. Alors on va faire cette deuxième pause musicale et puis ensuite tu nous expliqueras comment le Moyen-Âge a été ensuite. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième et dernière partie ce soir, consacrée à un ouvrage de Violaine Giacomotto Ciara et Sylvie Noni, intitulé « La Terre plate, généalogie d'une idée fausse » que Michel nous présente ce soir. Tu nous as expliqué... comment le livre retrace finalement l'histoire de, non pas de l'idée que la Terre serait plate, puisque les deux auteurs nous expliquent que depuis l'Antiquité, l'idée dominante et largement dominante est au contraire que la Terre est ronde, sphérique, même si effectivement il y a un certain nombre de questions qui demeurent en suspens sur la possibilité des êtres humains et vivants aux antipodes. Comment peuvent-ils vivre la tête en bas? Bon, c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse, évidemment, sous l'Antiquité et au Moyen-Âge, mais l'idée que la Terre est ronde est, en réalité, nous montrent ses auteurs, largement dominante, hein, et cela jusqu'à la fin, jusqu'à la Renaissance, en réalité. Alors, peut-être que dans cette dernière partie, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que ces auteurs nous apprennent de la manière dont le Moyen-Âge a été taxé, justement, d'obscurantisme, en dépit, contre toute vérité historique, et comment effectivement s'est forgé cette espèce de mythe, pourrait-on dire, d'un Moyen-Âge accroché à l'idée que la Terre serait plate, puisque visiblement ce n'est pas le cas, c'était pas le cas sous l'Antiquité non plus. Comment ça se construit du coup, cette espèce de cliché de clichés modernes, pourrait-on dire.
Alors, ce qu'elles essaient de montrer, c'est que globalement, c'est, alors, c'est principalement au 19e siècle que ça va se développer, mais il y a des racines au 18e. Et c'est dans un combat qui est à la fois, qui est surtout politique, en fait. Mais qui va consister justement à essayer de. Alors, soit de valoriser une époque en accalamnant une autre, soit de lutter contre l'institution ecclésiastique.
Qui est censée, du coup, avoir défendu l'idée de la Terre plate.
Qui est censée avoir défendu l'idée de la Terre plate, qui est censée avoir, comment dire. Alors que non, effectivement. Ouais. Et on a un fact-checking intégré maintenant avec José, qui nous apporte des dates qui nous manquaient. Et donc, un des artisans de cette légende du Moyen-Âge croyant à la Terre plate, c'est Voltaire, qui va justement, c'est un des premiers à dire que les Grecs avaient découvert la vérité et l'Église catholique l'a enterré au Moyen-Âge. Même si, bon, c'est un peu compliqué parce que... Ce qu'elle dit, c'est que, par exemple, c'est une idée qui n'apparaît jamais à l'époque de Galilée. L'idée que l'Église défend la Terre plate. Personne ne reproche à l'Église de défendre cette thèse. Parce que tous les manuels qui circulent dans les écoles et les universités de cette époque défendent un modèle ptoléméen où il y a, on voit une jolie sphère qui autour de laquelle tourne la Lune, le Soleil et les planètes.
On rappelle, c'est ce qu'on disait. En fait, la découverte de Galilée n'a rien à voir avec le fait que la Terre soit ronde ou carrée ou quoi que ce soit. Et tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle est ronde. La vraie découverte de Galilée, c'est qu'elle n'est pas au centre de l'univers ou du cosmos, comme pour le coup on le croyait depuis Ptolémée, c'est-à-dire depuis le 4e siècle, et que en fait c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et pas l'inverse, c'est ça la découverte de Galilée, c'est ça. Et donc quand Voltaire effectivement va associer en quelque sorte à la physique moderne et aux découvertes de Galilée cette découverte que la Terre serait ronde, il raconte juste n'importe quoi.
En fait, il va citer toutes les sources minoritaires qu'on a mentionnées, Lactance. Comme Lactance, un autre que je vous ai pas cité, etc. Et il va faire comme si c'était l'opinion dominante de l'époque. Okay. Et c'est dans l'article Figure ou forme de la Terre qu'on trouve dans le et comment dire dans l'encyclopédie philosophique dans le dictionnaire philosophique de Voltaire. Et Voltaire dit-elle que cette présentation des opinions de Lactance. Alors un petit passage de Voltaire où il va mettre en fait dans le même bain Lactance qui lui soutenait explicitement la platitude de la Terre et Saint Augustin qui lui niait que il y ait des habitants sur l'autre côté de la Terre qui est sphérique. D'accord. Et donc Voltaire commence par dire c'est une chose curieuse de voir avec quel dédain, avec quelle pitié Lactance regarde tous les philosophes qui, depuis 400 ans, donc c'est les philosophes grecs, commençaient à connaître le cours apparent du soleil et des planètes, la rondeur de la Terre, la liquidité, la non-résistance des cieux, à travers lesquels les planètes couraient dans leurs orbites. Ils recherchent par quel degré les philosophes sont parvenus à cet excès de folie, de faire de la Terre une boule et d'entourer cette boule du ciel. Donc ça, bon, Lactance, c'est mérité. Ensuite, il va verser Augustin, Saint-Augustin, dans le dossier. La plupart des nations, à l'exception des Chaldéens, regardaient le ciel comme solide. La Terre fixe et immobile était plus longue, d'Orient en Occident, que du Midi au Nord, d'un grand tiers. Ça, c'est des images qui sont... C'est ça. C'est une espèce d'image de navire, comme ça, oblongue. De là viennent ces expressions de longitude, parce que c'est long, et de latitude que nous avons adoptée. On voit que dans cette opinion, il était impossible qu'il y eût des antipodes. Aussi, saint Augustin traite l'idée des antipodes d'absurdité. Et Lactance, que nous avons déjà cité, dit expressément « Y a-t-il des gens assez fous pour croire qu'il y ait des hommes dont la tête soit plus basse que les pieds ?» En fait, la Voltaire, il confond explicitement, et peut-être volontairement, parce que c'était quand même un filou, la forme que les gens donnaient à l'ocoumène, c'est-à-dire l'ocoumène, c'est l'espace habitable et habité par les êtres humains, et celle qu'il donnait à la Terre. Donc là, il va mettre dans le même sac, hop, les deux questions.
L'argument, en fait, c'est une critique du catholicisme de mauvaise foi.
Oui.
en fait. Voilà,
on
peut dire ça comme ça.
De la part de Voltaire. Ben, Voltaire avait des comptes à régler avec les jésuites, avec lesquels il avait essayé de s'allier autour de la figure de Newton, jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'en séparer à cause du débat sur le climat lancé par Montesquieu. Donc il avait dû choisir son camp et commencer à s'attaquer à l'Église catholique, alors qu'au début, il se demandait s'il ne pouvait pas s'allier avec eux. Et là, il y a tout un...
Il cherche effectivement, contre la vérité historique, à montrer que c'est le catholicisme, et notamment les pères de l'Église, qui ont enterré cette découverte de nos glorieux Grecs.
Et ensuite, alors arrive un sujet qui nous intéresse, nous, particulièrement dans une émission. regarde pas l'heure, tiens, tu n'y échapperas pas. c'est qu'au 19e siècle, justement, il va y avoir tout un débat qui va être lancé par des protestants. Qui veulent justement.
Où soit-il.
qui veulent justement s'en prendre aux affreux papistes. Et qui vont, en quelque sorte, dire regardez, ils ont persécuté les savants comme ils ont persécuté nous. Et c'est un truc qui va naître surtout aux États-Unis dans la première moitié du 19e siècle, où ils vont essayer justement, en reprenant certains arguments de Voltaire et d'autres, de faire passer les catholiques pour plus obscurantistes qu'ils n'étaient. Alors, c'était sans doute obscurantiste, mais pas sur cette question-là, en fait. Et donc, ça va être un deuxième, en quelque sorte, et c'est une histoire américaine, en fait, qui va ensuite être assez diffusée, qui va être lue aussi par les lettrés français. Parce que ça circule. Et donc.
Autour de la question de la Terre plate.
Et autour, oui. Et en particulier.
Parce que Galilée a quand même été menacé du bûcher, quand même.
Oui.
Sur une autre question, certes.
Effectivement. Mais avec, c'était pour eux aussi, pour les protestants, d'attaquer Saint-Augustin, qui est une des références fondamentales de l'Église catholique, avec l'idée que, justement, Saint-Augustin aurait contribué à, en quelque sorte, aussi décrédibiliser la foi, en arrivant à une idée d'opposition entre la foi et la science. Alors que, justement, il fallait, au contraire, justement, ne pas décrédibiliser l'Église en acceptant les résultats scientifiques. Mais ça, c'est une partie du débat qui, donc, a eu lieu aux États-Unis. C'est un débat qui a en partie été repris en France. Avec un historien, Antoine-Jean Letronne, titulaire de la chaire d'histoire au Collège de France. Et lui, justement, va donner ses lettres de noblesse en France aux thèses de la Terre plate et de l'opposition de la science et de l'Église. Et donc, c'est pareil. Lui aussi va souvent confondre l'argument de la sphéricité et de la mobilité. C'est-à-dire qu'on met ça dans le même sac.
Et c'est quand même un peu surprenant, oui. Non, parce que si tu veux, les découvertes de Galilée sur la découverte de l'héliocentrisme...
Oui.
C'est la Terre qui tourne autour du Soleil.
Qui avait déjà été faite par Copernic. Qui était un moine polonais.
L'hypothèse, mais la preuve expérimentale, en fait, elle est quand même connue très rapidement. Et elle fait autorité très rapidement dans le milieu scientifique.
Oui.
Parce que là, tu parles d'auteurs qui vivent au 19e siècle.
Oui.
Donc on est près de 150 ans, 200 ans plus tard. Et c'est quand même surprenant, si tu veux, que tu aies cette confusion-là entre l'enjeu, finalement, des découvertes de Galilée et de sa condamnation par l'Église. Parce que l'Église, en fait, elle s'en fout qu'elle soit plate ou ronde. Elle sait qu'elle est ronde, en l'occurrence. Oui. Mais par contre, effectivement, que l'homme ne soit pas au centre, ça, c'est un gros sujet, évidemment.
Exactement.
Et c'est étonnant qu'au 19e, tu aies encore des gens qui fasse la confusion entre les deux et qui du coup tape en fait sur le mauvais clou, quoi, parce qu'effectivement c'est pas le problème, en fait.
Non.
Il n'y avait pas internet.
Une de leurs hypothèses, là pour le coup, je trouve que l'explication de cette erreur dans le livre est un peu faible, c'est-à-dire que on a peut-être une explication un peu par les textes. Il y a un tel qui a écrit ça, et il défend telle thèse.
Oui, mais elles font pas une analyse, du coup, des manuels qui circulaient à l'époque.
Un peu moins, peut-être, c'est ça. Et puis, il n'y a pas forcément d'analyse sociologique. Je pense que ça manque pour le coup. Parce que c'est une analyse qui est vraiment du genre il y a tel auteur qui a écrit tel truc, où il confond telles et telles idées. Mais ensuite, le livre, on ne sait pas pour le coup. Enfin, si, à la naissance de la Troisième République, les laïcs qui se mettent en branle et qui veulent taper encore sur l'Église et qui vont trouver Mais comme tu dis, Jean-Mathias, en fait, il suffisait de, si on voulait taper sur l'Église, il suffit de lui imputer sa véritable erreur, à savoir le refus de considérer que la Terre était, comment dire, était en mouvement autour du Soleil, qu'elle n'était pas au centre.
C'est sachant que l'Église catholique ne s'est officiellement excusée de cette affaire que sous Jean-Paul II.
Oui, oui, en 1992.
Ouais, c'est ça. Il y a de quoi faire quand même, je veux dire, oui. Tu vois, pour
En citant Galilée. Hein,
Après,
la Bible nous dit comment elle est au ciel, elle ne nous dit pas comment est le ciel. C'est
une citation de Galilée. Mais j'imagine que du coup, effectivement, parce que elle, ce qui les intéresse, c'est effectivement, c'est la Genèse et l'histoire du cliché, quoi.
C'est ça.
Même si ce cliché est déplacé et finalement inopérant.
Exactement.
En réalité.
Exactement. Mais comment est-ce qu'il est né? Et donc là, peut-être que la faiblesse du bouquin, c'est justement de nous citer que d'autres textes, sans qu'on ait forcément. Mais je pense que c'est très compliqué à faire comme histoire. Une espèce d'histoire un peu méticuleuse de la circulation des idées, quoi. Comment est-ce que cette idée et alors bon, elle propose deux, trois hypothèses, hein, une espèce de complot, il y a un goût pour le complotisme.
Mais alors ça, c'est aujourd'hui, ou est-ce qu'elle elle remet ça directement?
Elles ont tendance à se dire que peut-être que ça a déjà joué avant, une espèce d'idée du complot de l'Église. Il y a aussi tout un tas de pages qui sont assez intéressantes sur sur Christophe Colomb.
Ouais.
Parce que, je ne sais pas quand vous étiez petit, mais moi, on m'avait dit aussi que Christophe Colomb avait dû, j'avais appris que Christophe Colomb avait dû lutter contre les autorités en place parce que certaines personnes croyaient que son navire allait sombrer aux extrémités de la Terre plate. Ouais. Alors qu'en fait, le problème que Colomb a dû rencontrer en vérité, c'était un problème de discussion sur les distances à parcourir. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas dû lutter contre les autorités pour prouver que la Terre était ronde et qu'il pourrait faire un trajet d'est en ouest, d'ouest en est complet. Il a dû lutter pour dire non, on aura de quoi embarquer assez de bouffe. Et c'est un problème de mesure, combien d'espace j'aurai à parcourir. Et donc c'était en fait un débat sur la circonférence. Et Colomb était lui, c'était pas une espèce de héros de l'empiricité qui allait prouver aux gens par le mouvement que la Terre était bien ronde. Là aussi, il y avait consensus sur le truc et personne ne lui a dit mais non, tu vas tomber dans les abysses. Pauvre fou, n'y va pas. Non, on savait qu'il allait faire le trajet. Enfin, qu'il pouvait en tout cas. Mais ce qu'on interrogeait, c'était la capacité.
Et Magellan, du coup ?
Magellan, pareil, Magellan a été fait. Mais Magellan a été moins héroïsé. Mmh. Alors que, même s'il y a des. Bon, en gros, il y a quand même 3-4 héros de cette histoire un peu fictive. C'est évidemment Amerigo Vespucci, Christophe Colomb et Magellan. Et ils subissent différentes éclipses en fonction des moments d'histoire. Donc il y a un passage assez rigolo où, en fait, il y a tout un pan de l'Église catholique qui essaie de réhabiliter Christophe Colomb au nom du fait que, grâce à lui, on a pu aller convertir les païens. Et donc, on en fait une espèce de héros spirituel du catholicisme, puisque c'est lui qui a pu répandre la bonne parole, enfin qui a permis de répandre la bonne parole. Mais c'est parce que l'Église sent que les laïcs essaient de récupérer Christophe Colomb.
Mais cela dit, ce qui est pas inintéressant dans ce parcours-là, je trouve, c'est que, parce que souvent, effectivement, on t'associe la découverte de Colomb, Magellan, le tour du monde, etc. C'est là qu'on te date souvent, enfin, il y a chez les historiens, le début d'une globalisation, avec qui dit justement qu'on a fait le tour du globe, quoi, précisément. Et là, pour le coup, on voit que c'est une idée qui est en fait beaucoup, beaucoup plus ancienne. Alors, effectivement, empiriquement, on l'a pas fait le tour, jusqu'à Magellan. Mais du coup, en tout cas, l'idée, effectivement, elle est beaucoup, beaucoup plus ancienne. Et c'est pas une découverte d'explorateur, pour le coup, loin de là. Ça, c'est au moins, effectivement, un des trucs qu'on apprend dans ce livre-là, quoi, parce que...
En fait, après, il y avait tout un tas de croyances sur comment la Terre était, comment dire, faite, et est-ce qu'on pouvait vivre en dehors. Et donc, par exemple, la forme, un peu oblongue de l'œcumène, tiens, de l'endroit où les êtres humains peuvent vivre, on savait pas s'ils pouvaient vivre en dehors, ou si c'était impossible. Donc là, ce que les explorateurs ont découvert, c'est que oui, on pouvait.
Et de quel questionnement elles partent aujourd'hui, en fait, à quel point c'est un cliché qui est répandu? Parce qu'effectivement, l'histoire de Christophe Colomb et tout ça, j'ai pas mémoire de ça,
Dans les manuels.
Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est répandu? Est-ce qu'elles ont regardé des manuels?
Sur Christophe Colomb?
Sur l'idée qu'au Moyen-Âge, la Terre serait plate.
Alors, elles partent de Chiappa, de tout un tas de gens, en fait, de tout un tas. Et à la fin, elles font une espèce de petit bêtisier où elle répertorie toutes les occurrences de cette croyance, ou encore quand les gens font un peu l'impasse, du genre hop, on avait esquivé la question parce qu'on n'est pas trop sûr. Et donc c'est quelque chose qui est relativement répandu. Et elles, ce qui les intrigue, c'est qu'elles peuvent observer. Alors il y a un passage très très drôle parce qu'elle cite un gars qui écrit dans Le Monde. En 1990 et quelques, le gars est physicien, mais tout de suite, pas historien, je crois qu'il est physicien, mais il n'est pas historien de sa discipline, et il va reprendre ce cliché, et il le reprend dans un texte, qui, donc il dit, oui, il y avait plein de gens qui, tout le monde croyait que la Terre était plate, une seule personne avait raison, c'était Galilée, donc il écrit ça dans sa tribune du Monde, et ce qui est assez amusant, c'est que le gars, en fait, il écrit ça pour défendre le climato-scepticisme.
Ah oui, d'accord. Seul contre tous.
Seul contre tous, okay, c'est okay. Ça. Mais ici, je suis une connerie. Voilà. Bon, on va fermer boutique. Voilà. Bah, donc, c'était un livre de Violaine Giacomotto Cara et Sylvie Noni, La Terre plate, généalogie du nid des fosses, et chez Folio Histoire.
Et vous aurez compris, donc, que ce n'est pas un livre anti-platiste, mais anti certains arguments anti-platistes.
C'est ça.
Voilà. Bon, et on se retrouve dans 15 jours pour Jeudi Noir. L'émission, elle est disponible sur le site de l'émission, comme toujours, jeudinoir.gurdulu.org, si vous souhaitez consulter les archives. Et on vous dit donc à la prochaine fois.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
Pour cette émission, nous recevrons Pierre De Ruisseau. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Je vais faire une bref, présentation, tu es connaisseur ou passionné de musique, et plus particulièrement de musique qui touche aux cultures africaines, américaines, et tu ne te dis pas expert, historien, mais voilà, je pense que tu es suffisamment féru et sachant pour aujourd'hui pouvoir un peu nous apporter quelques lumières sur les mouvements d'émancipation des cultures africaines, américaines au cours de l'histoire. Avant de trop rentrer du coup dans ce sujet, aussi important, je pense, de souligner que tu organises des conférences. Il y a plein de sujets différents que tu abordes, mais voilà, avec une thématique généralement propre à une conférence et que tu animes, alors soit en interaction avec les personnes présentes pour savoir elles-mêmes ce qu'elles en pensent, ce qu'elles ressentent. Moi, j'ai eu la chance d'assister déjà à deux de tes conférences qui m'ont justement parlé, qui m'ont donné envie, voilà, de t'inviter aujourd'hui pour pouvoir discuter un peu de tous ces sujets. Mais voilà, peut-être que tu as d'autres choses à préciser.
Ouais, bah, raconter peut-être comment j'en suis arrivé là. Donc moi, je suis bruxellois, belge, et j'ai organisé des concerts pendant de nombreuses années, plutôt dans des milieux expérimentaux, création sonore, libre impro, ou alors des formes parfois, voilà, de musique plus de l'électronique ou du folk, mais qui était chaque fois un peu dans des formes d'écriture un peu haute, quoi. Et donc pas tellement de musique, donc on dit africaine, américaine, c'est l'appellation par laquelle cette communauté a tendance à préférer se nommer, se faire appeler. Avant on disait noir américaine, puis on a dit, enfin en Europe, en France, langue française, puis on a dit afro-américaine. Maintenant on dit africaine, américaine, donc on parle vraiment de la culture, on va dire, des afro-descendants, la culture musicale des afro-descendants aux États-Unis d'Amérique. Et c'est à celle-là qu'à un moment donné. Donc moi, je fais maintenant un travail de transmission. Et voilà, et je suis pas, comme ça a été dit, je suis pas un historien, c'est pas mon point de vue, mon positionnement. Je suis pas musicologue, je suis pas passé par l'académie. Quand je suis pas historien, c'est aussi pour dire que j'ai pas nécessairement lu tous les ouvrages importants, clés. Différentes choses en fait, c'était une recherche personnelle au départ, vraiment une passion. Au sein des musiques afro-américaines, à l'époque je travaillais pour une médiathèque à Bruxelles, et on nous a demandé au personnel, qu'on ait ou pas du talent d'écriture, hein, mais de faire des chroniques de disques et